Frères et sœurs, les amis, ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons le vivre avec une personnalité merveilleuse. Et l'adjectif est trop faible, puisqu'il s'agit de Jean le Baptiste, que nous devons considérer comme un des plus grands prophètes, mais un des plus grands maîtres spirituels de tous les temps, nous pourrions dire. Pourquoi ? Parce que il nous faut remonter au mystère de la visitation. C'est une des premières fois où nous entendons dans l'Écriture parler de Jean le Baptiste. Vous savez, Marie est enceinte, elle attend l'enfant Jésus, et elle va rendre visite en hâte, nous dit le texte, à sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte de Jean le Baptiste. Et dans cette rencontre mystérieuse, mais tout à fait réelle, la parole de Dieu nous dit que Jean le Baptiste a tressailli de joie dans cette rencontre mystérieuse de ces deux femmes qui étaient enceintes. Alors la première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il n'est pas important de voir quelqu'un ou de voir quelque chose pour, à notre tour, tressaillir de joie. Ça, c'est le premier enseignement qui fait allusion à la foi. La foi, c'est croire sans avoir vu. Et Jean le Baptiste tressaille de joie dans le sein de sa mère, Élisabeth, en rencontrant mystérieusement l'enfant Jésus dans le sein de Marie. Alors si je fais ce bref rappel, c'est parce que toute la vie de Jean le Baptiste, il va tressaillir de joie à l'annonce dont il est chargé, qui est l'annonce du Sauveur, mais aussi dans sa rencontre personnelle du Christ adulte au Jourdain, au moment du baptême. Le deuxième point, c'est que cet être, ce grand prophète, dont le Christ lui-même dira qu'il n'y a pas de plus grand prophète que Jean le Baptiste, ce Jean le Baptiste part au désert pour se préparer et préparer son cœur à cette venue, à la venue du Christ, comme nous, nous préparons durant ce temps de l'Avent. C'est pour ça que nous méditons sur Jean le Baptiste. Comme nous, nous nous préparons pour accueillir le Sauveur dans la Sainte Nuit de Noël, dans la crèche. Le désert est ce qui va former et forger la personnalité de Jean le Baptiste. Mais nous savons aussi que la symbolique du désert, c'est une rencontre intime avec Dieu qui a donné tout au long de l'Ancien Testament rendez-vous à son peuple au désert ou à la montagne. Ce qui va être la vocation de Jean le Baptiste, j'allais dire son privilège unique, ce sera d'être celui qui désigne le Sauveur, encore inconnu, voire anonyme, à une foule qui ne peut encore le reconnaître. Alors c'est parce que cette foule ne peut pas le reconnaître, reconnaître celui qui doit venir, que Jean le Baptiste va fustiger cette foule. Alors il faut bien comprendre que lorsqu'il va traiter cette foule de menteur, c'est pas une critique qu'il fait directe aux personnes en tant qu'individus qui sont là, mais leur attitude rappelle ce qui nous a été donné au livre de la Genèse, au chapitre 3, c'est que le menteur fait allusion au serpent, qui est l'ennemi des origines de Dieu. L'animal rusé et celui qui veut entraîner l'homme vers la mort. Et Jean le Baptiste, lui, c'est le contraire. Il est l'homme au cœur pur qui veut attirer les hommes vers la rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors il va inviter, certes de manière vertement, si je puis dire, les gens à ne plus pécher, c'est-à-dire à se convertir. Mais on sait très bien la manière dont Jean le Baptiste va quitter ce monde, il mourra martyr pour avoir dit tout simplement la vérité au plus puissant de ce monde. Et le plus puissant de ce monde à l'époque de Jean le Baptiste, c'était le roi Hérode. Et c'est pour cela que Jésus va dire qu'il est le plus grand des prophètes. Alors quand je disais tout à l'heure que Jean le Baptiste, en traitant les hommes de menteurs, c'est-à-dire en faisant allusion à celui-là seul qui est le menteur, c'est-à-dire le serpent des origines, il ne peut pas être en contradiction avec la première lecture, celle du livre d'Isaïe, qui nous rapporte cette très belle fresque, si je puis dire, du rameau qui sortira de la souche de Jessé, père de David. Et ce rameau, nous savons très bien que c'est le Christ. Sur lui reposera l'Esprit Saint, c'est un très beau texte où nous voyons tous les dons de l'Esprit Saint, sagesse, discernement, conseil, force, prière, crainte de Dieu, etc., que nous connaissons bien. Et il nous est dit qu'il ne jugera pas d'après les apparences. Donc Jean le Baptiste ne juge pas les personnes en les traitant de menteurs selon les apparences. Il nous invite à nous, comme à ceux qu'il côtoyait en son temps, à nous convertir, c'est-à-dire à faire pénitence. Alors le mot pénitence, malheureusement, de manière courante, on croit que c'est faire d'abord des sacrifices. Mais c'est d'abord une conversion, c'est-à-dire se retourner, c'est-à-dire d'abord dans son cœur, avoir le désir qui alimente une décision de prendre le bon chemin. Et c'est là aussi le thème du temps béni de l'Avent, de prendre le chemin de la réconciliation pour que notre cœur puisse être le lieu véritable d'accueil de l'enfant Jésus de la crèche. Alors bien sûr, la pénitence peut comporter l'acceptation des souffrances, l'acceptation de tout ce que vous voulez, mais c'est d'abord, me semble-t-il, l'acceptation de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons des saints. Et donc de prendre le bon chemin, le chemin de la sainteté, qui n'est pas un chemin si difficile. Je vous le rappelle souvent, le chemin de la sainteté, c'est le chemin du devoir d'État, faire ce que j'ai à faire, ne pas envier la place des autres, et faire ce que j'ai à faire dans la vocation qui est la mienne, et le faire le mieux possible. Alors c'est vrai que ça demande des renoncements, ça demande peut-être des souffrances, mais telle est la réalité. Alors frères et sœurs, accueillons cette personnalité de Jean le Baptiste, notre maître spirituel, en ce deuxième dimanche de l'Avent. Amen.